Bonjour à tous, bienvenue, merci d'être venus nombreux.
Bonjour.
Donc, nous allons essayer de démystifier Big Data au travers d'un petit peu de théorie au début, et puis ensuite, deux cas plutôt concrets qui vont vous montrer comment les outils s'utilisent, comment ils se manipulent, et comment est-ce que Décube d'une part, et puis VTraffic d'autre part, les ont utilisés. Donc, je suis Benjamin Guinbertière, je travaille à Microsoft France en tant que technical évangéliste sur Windows Azure et sur Big Data. Et je suis accompagné de Romain, François et Sébastien, que je laisse se présenter.
Bonjour, Romain Casteres, consultant en business intelligence chez Décube. Je suis MVP SQL Server et membre du board du GUS, à savoir le groupe utilisateur SQL Server francophone.
Bonjour, je suis François Simoès, je travaille chez VTraffic. Je suis responsable des opérations là-bas. On a des belles petites choses à vous montrer aujourd'hui sur ce qu'on a fait avec le Big Data et HD Insight avec mon camarade.
Bonjour, Sébastien Echeverry, je suis ingénieur en développement chez VTraffic.
Très bien. Donc je vous invite plutôt après la session qu'avant à la noter. Donc sur notes.mstechdays.fr. Vos retours sont intéressants, nous les lirons avec attention. Alors, pourquoi le Big Data ? Alors, juste très rapidement, pour montrer un exemple, bon là, pour le coup, interne, c'est le cas de Halo 4, où en fait, le Big Data est utilisé pour détecter des comportements anormaux, et donc en traitant la façon dont tous les joueurs se comportent, ça permet de voir quelles sont les exceptions, et donc ensuite, regarder plus attentivement les quelques personnes qui se comportent différemment, de façon à vérifier s'ils sont vraiment des surbêtes ou s'ils sont des tricheurs. Donc ça, c'est un moyen de vérifier les choses. Et puis également, bah, ça permet d'une façon plus classique de faire du marketing également. Donc pourquoi le Big Data maintenant ? Alors, depuis quelques années déjà, il y a beaucoup de données qui sont générées, que ce soit dans les réseaux sociaux, sur Internet, dans les entreprises, beaucoup de données numériques, qui sont de différentes formes, donc il y a de la vidéo, du texte, des données, des photos, etc. Et rien que dans le texte, il y a beaucoup de formes de données qui sont différentes et qui sont disponibles. On a également ces données qui sont créées en temps réel et exploitées en temps réel. Donc là, ce qu'on va vous montrer aujourd'hui va être plutôt sur la partie batch, mais ça fait partie aussi de Big Data que d'utiliser les choses en temps réel. Les deux, en général, sont assez complémentaires, dans le sens où le batch va permettre de visiter un stock de données complet et de tester différentes façons de voir ce dataset et donc d'en déduire les modèles qui peuvent être intéressants, et ces modèles, on va pouvoir les appliquer pour avoir sur une toute petite fenêtre, en fait, une vue en temps réel sur les données qui arrivent. Et puis, parallèlement à ça, on a le coût du stockage qui est de plus en plus faible, donc à demeure, mais également dans le cloud, où on peut avoir des données qui sont stockées de façon redondée, même sur plusieurs data centers, à des prix qui sont assez faibles par rapport à ce qu'on pouvait avoir il y a quelques années. Et puis évidemment, avec tout ça, et vu ce que je viens de vous dire, il y a l'attente des utilisateurs qui veulent utiliser de plus en plus de choses parmi ces données, enfin faire une meilleure exploitation de ces données. Donc, comment est-ce que ça se présente, cette plateforme de data et de big data dans Microsoft, enfin avec les logiciels Microsoft? Alors ça, on part des sources de données. Donc, on a ces sources de données qui peuvent venir du système d'information de l'entreprise que vous voyez sur la droite, et puis également des Internet des objets, et également d'Internet, des réseaux sociaux, etc. Donc ça va se retrouver sur la partie serveur de SQL Server chez nous, donc avec quelques briques qui sont indiquées ici comme Reporting Services pour les rapports. On a aussi de Master Data Management, Analysis Services, donc des choses que vous connaissez sans doute déjà. Et l'appropriation de ces données par les utilisateurs finaux, ça va se faire, comme Franck Mercier a pu vous le montrer ce matin en plénière par exemple, avec Power BI, et au centre de Power BI, il y a Excel, et après il y a des déclinaisons dans SSAS pour la partie Power Pivot, et puis également dans SharePoint et SharePoint Online pour pouvoir partager les données qui sont au sein d'Excel dans ces nouveaux modes auprès de plusieurs utilisateurs. Entre les données elles-mêmes et puis la partie serveur, on va pouvoir avoir, pour étendre en fait ce qu'on connaissait déjà avec SSAS par exemple, on va pouvoir étendre les choses et aller chercher des nouveaux types de données avec la partie Big Data, et en particulier un des frameworks open source qu'on a dans le monde du Big Data, qui est Hadoop, qui se décline de deux façons différentes. Soit sur Windows Server avec le portage qu'a fait Hortonworks avec Hortonworks Data Platform, donc HDP for Windows, et puis également la déclinaison encore de HDP for Windows qui s'est faite sur Windows Azure, donc avec du Hadoop as a service, et c'est HD Insight. Pour les données en temps réel, eh bien, il y a la brique de Complex Event Processing Stream Insight qui va typiquement aller traiter quelque chose comme 5000 ou 10000 requêtes, enfin 10000 signaux par seconde en quelques événements par minute ou quelques événements par seconde qui, eux, ont un sens fonctionnel. Les données peuvent venir également de la marketplace Azure, donc là où on peut acheter des données, ou alors éventuellement, si on en achète peu, on peut les acheter gratuitement, et puis commencer à payer quand on en utilise plus. Donc ça peut être des données de météo, par exemple, et ça peut être aussi la consommation d'API web, comme des API de traduction. Et puis, également, une autre façon de s'approprier des technologies de Big Data un peu plus rapidement qu'en les installant complètement soi-même, ça peut être le fait d'installer une appliance. Et donc, il y a Parallel Data Warehouse, donc il y a des sessions sur le sujet, qui va vous permettre d'avoir du SQL en tant que appliance. Entre les deux, il y a des connecteurs qui vont permettre d'aller chercher des données dans Hadoop et puis faire des requêtes également entre le monde relationnel et le monde Hadoop avec un moteur comme Polybase. Donc, descendons un peu plus précisément sur la partie Hadoop, puisque c'est surtout de ça dont on va vous parler aujourd'hui. Donc Microsoft et Hortonworks ont monté un partenariat il y a quelques années pour porter... Donc Hortonworks est un des acteurs importants dans le monde Hadoop. Et donc, en fait, Microsoft et Hortonworks ont fait ce portage de Hadoop sur Linux pour le faire faire tourner sur Windows Server de façon à ce que ça puisse être utilisé en production sur Windows Server. Donc c'est chose faite. Et puis, de son côté, Microsoft a porté ça dans HD Insight, donc le Hadoop en tant que service sur Windows Azure. Alors, rentrons encore un peu plus dans le détail sur ce qu'est Hadoop. Le but, ce n'est pas de rentrer dans le détail de l'algorithmie qu'on a ici, mais en gros, de donner une idée de ce qu'est MapReduce. Donc, ce que vous pouvez retenir, c'est que sur la gauche, en fait, on se concentre sur le code. On fonctionne à base de clés-valeurs pour avoir un paradigme de programmation qui est assez générique, en fait, puisque des clés-valeurs, ça permet de traiter quand même pas mal de choses. Et sur la droite, vous avez le cluster, qui est donc là, c'est un cluster de trois nœuds, qui est représenté dans les deux phases, un en haut, la phase de map, et en bas, la phase de reduce. Et au milieu, vous avez la phase de shuffle, qui permet de trier les clés pour que toutes les clés issues de la phase de map se retrouvent dans la phase sur les mêmes serveurs en fait dans la phase de reduce. Et donc typiquement on va pouvoir aller crawler toutes les données dans la phase de map et ça de façon très distribuée et dans la phase de reduce on va pouvoir aller accumuler les clés qui ont les mêmes clés, on va pouvoir aller les accumuler et donc réduire de façon à faire par exemple des sommes. Donc voilà, donc ça c'est le principe de MapReduce et le Hello World de Hadoop, pour ceux qui sont développeurs, ça s'appelle WordCount puisque ça consiste à aller compter les mots qu'on a dans un texte de très grande taille. Si on veut pouvoir manipuler des données, donc typiquement des fichiers plats par exemple, ou des répertoires entiers de fichiers plats qui ont la même structure, on va pouvoir le faire de façon scriptée en fait avec Hive qui est du SQL sur Hadoop. Donc on va déterminer la donnée au moment de la lecture, donc ça c'est un des principes de Big Data, c'est que comme on a accumulé beaucoup de données sans savoir nécessairement comment on allait la traiter, c'est au moment de la lecture qu'on va dire bah, ce fichier qui est en haut, je vais le voir de cette façon-là. Ensuite, on va déterminer aussi le fichier en bas, celui qui est le résultat qu'on va vouloir avoir, c'est-à-dire seulement l'heure et l'URL en haut, c'est un log IIS. Et puis, enfin, on va pouvoir faire le select qui va bien, donc avec un où on dit je sélectionne seulement le hit time et l'URL et je l'écris dans le fichier du bas. Donc on manipule des fichiers en SQL, et ça c'est Hive, un framework de Hadoop. Je reviens un peu sur la partie HD Insight. Donc la structure de HD Insight comme un cluster Hadoop classique, on va avoir un certain nombre de nœuds sur la droite, donc au-dessus d'HDFS, on a un certain nombre de nœuds ici qui permettent de stocker des données. On a un head node ici qui va contenir le répertoire de toutes ces données-là, un nœud par lequel on accède d'un point de vue sécurité. Et puis, comme on est sur du cloud, du coup, la colocalité des données est moins importante qu'à demeure, et du coup, on va avoir un autre système de fichiers que HDFS, donc Hadoop Distributed File System, ou plutôt une autre implémentation de cette même interface, qui s'appelle Windows Azure Storage Blob, qui est le blob, le système de stockage de Windows Azure, qui existe même indépendamment d'HD Insight. L'avantage de ça, c'est qu'on peut éteindre toute la partie compute qui coûte la plus chère, et continuer à accumuler des données ou à récupérer les données résultats dans le Windows Azure Storage Blob qui est ici. Donc dans HD Insight, les deux systèmes de fichiers sont utilisables, et ce système de fichiers Windows Azure Storage Blob est celui qui est par défaut. Donc je laisse la main à Romain qui va vous expliquer comment SQL et Hadoop sont complémentaires.
Donc Apache Hadoop n'est pas un substitut à une base de données, mais voici comment il peut s'incruster dans votre système d'information décisionnel. Donc de grosses volumétries de données ou de gros calculs parallélisés seront effectués dans HD Insight et il en ressort un output. Cet output peut être intégré dans votre data warehouse via un ETL ou directement alimenter votre modèle de données, que ce soit un cube tabulaire ou un cube multidimensionnel, ou encore directement vos reportings. Là où hier nous détruisons les données qui n'avaient aucune importance à l'instant T, qui n'apporte aucune intelligence, de aujourd'hui, on peut se permettre de les sauvegarder parce que les coûts de stockage, comme a dit Benjamin, ont bien baissé, et se permettre de les analyser par la suite. Et HD Insight le fait assez bien, nous verrons pourquoi par la suite. Je vais maintenant vous présenter un cas d'utilisation de HD Insight avec le projet APVX pour aide à la prévision des ventes. Donc, le client avait besoin de mesurer les répercussions de ses actions marketing sur les ventes grâce à l'analyse de ses trois réseaux sociaux. Donc des crawlers Azure scrutent ces trois réseaux sociaux à la recherche de mots-clés que les utilisateurs ont renseignés sur une page internet à l'avance. Et nous allons scruter principalement des consoles et des jeux vidéo dans le but de trouver une relation entre les ventes et le buzz constaté. Donc à la fin, il y aura un tableau de bord consolidé, et ce qui permettra au marketing de prendre les meilleures décisions. Côté architecture, voici ce qu'on a pu mettre en place. Donc, les mots-clés sont stockés dans une VM, dans une base de données SQL Server. Des worker roles Azure vont venir piocher ces différents mots-clés et vont aller scruter ces réseaux. Il en résulte un certain nombre de tweets qu'on stockera dans Azure Blob Storage, de tweets ou de commentaires Facebook ou de likes YouTube, par exemple. Ensuite, nous allons créer un cluster HD Insight qui va agréger cette grosse volumétrie de données en parallèle. Nous stockerons dans cette VM, dans un data warehouse, les données agrégées, et nous garderons des données de détail dans Azure Blob Storage. Enfin, nous créerons un cube tabulaire au-dessus de ces données, et via Power Query, qui est un ETL end user, nous irons piocher les données de détail issues du Blob Storage Azure. Pour finir, nous créerons des rapports Power View et Power Q&A. Place à la démo. Donc, dans un premier temps, je vais vous montrer à quoi ressemblent les mots-clés renseignés par les utilisateurs. Puis nous verrons les tweets qui en résultent. Nous créerons un cluster HD Insight et nous utiliserons Hive, qui est une couche d'abstraction au modèle de programmation MapReduce, permettant d'effectuer des requêtes dans un langage proche de SQL. Ça a été développé par Facebook pour permettre aux développeurs d'avoir un langage de scripting au-dessus de ces données distribuées dans le HDFS. Et enfin, nous utiliserons Scoop SQL to Hadoop pour transférer les données de Hadoop du HDFS dans SQL Server. Donc, hop, à quoi ressemblent les mots-clés ? Donc, les utilisateurs ont renseigné dans une page internet différents mots-clés qu'ils souhaitent scruter sur internet. Ces mots-clés ont été stockés par la page internet dans ce container qui est mon Azure Blob Storage. Et voici à quoi ressemble ce fichier. Donc, on a une liste de jeux avec leurs identifiants, sur quel réseau les analyser? Par exemple, ici, nous allons analyser PS4 sur Twitter, et PS4, c'est une plateforme. Il en résulte un certain nombre de tweets, donc les workerolles ont travaillé, et enregistrent par jour un certain nombre de tweets. Donc, en gros, nous avons pour 50 mots-clés environ 1 à 2 gigas de données par jour, ce qui fait en fait 50 000 tweets par heure. Donc, ces données, à quoi ressemblent-elles? Voici un exemple d'un de ces fichiers. Donc, j'ai une suite de tweets qui sont au format JSON. Si on en prend un en particulier, ça ressemble à ça. Si on regarde l'architecture de ce JSON, nous avons l'identifiant du tweet, le texte du tweet, des informations sur l'utilisateur, comme le time zone, là où il a envoyé le tweet. Maintenant, nous avons ces données, nous allons pouvoir utiliser HD Insight pour les rendre intelligibles, les agréger, afin d'avancer dans l'analyse. Donc, pour ce faire, je me suis connecté à mon manage Azure et je vais créer un nouveau cluster HD Insight. Donc, HD Tech Days 2014. Je renseigne là le nombre de nœuds. Ça va être les nombres de compute nodes, les nœuds de travail qui vont travailler en parallèle. Ensuite, je renseigne la version. Depuis tout à l'heure, une version 3.0 est apparue. C'est magique, c'est Azure. Ensuite, je sélectionne la région sur laquelle stocker mon cluster. Je renseigne un utilisateur avec son mot de passe. Oui, il y a une nouvelle version dispo, c'est un scoop. Et je renseigne aussi une base de données. Pourquoi ? Parce qu'elle va me permettre de stocker mes métadonnées Hive dans une base de données Azure. Nous verrons par la suite quel est l'intérêt. Ensuite, je renseigne où stocker mon cluster, donc un compte de stockage Azure qui existe déjà. Si je choisis le répertoire par défaut, il me créera au nom du cluster. Et je peux choisir en plus de rajouter d'autres comptes de stockage, mais je ne vais pas le faire puisque mon cluster existe déjà. Donc le voici, je rentre ici dans son administration et je vois qu'il y a deux comptes de stockage et une base de données SQL, serveur, Azure, qui stockera les différentes métadonnées Hive. Dans la configuration, j'active l'accès distant à mon cluster, ce qui va permettre de m'y connecter en remote desktop. Donc ici, je suis sur mon cluster, connecté au nœud principal, finalement. Donc si je requête une petite requête Hive comme celle-ci, show table, elle va me renvoyer la liste des tables existantes de mon cluster. Donc il faut savoir que Hive, comme l'a dit Benjamin, lit le schéma des fichiers. Le schéma des fichiers est défini à la lecture et non lors de l'écriture, comme dans la plupart des GBD relationnels traditionnels. Donc, attends, on n'a pas eu la réponse de mon... Voilà. Et donc là, j'ai la liste de mes différentes tables.
Donc les tables Hive, c'est comme des masques, en fait, sur les fichiers plats.
Oui, alors il y a deux types de tables Hive. Il y a les tables externes qui sont comme des vues sur mes données stockées dans mon blob storage Azure et où Hive ne stocke que les métadonnées, contrairement aux tables internes où Hive va stocker les métadonnées et les données. Donc ici, je crée une table externe qui s'appelle Keyword List et je lui renseigne l'adresse de mon container qu'on a vu tout à l'heure. Ensuite, je crée une première vue qui contiendra uniquement les données concernant le réseau Twitter. Et ensuite, alors afin de rentrer, ajouter de l'intelligence finalement à ces données, j'ai créé un dictionnaire de mots pour lesquels j'ai spécifié une polarité, à savoir un sentiment. Donc on a une liste de mots et de 0 à 10, suivant s'ils sont positifs les mots dans une phrase, ou plutôt 0 si négatif et 10 si positif. Particularité, c'est que j'ai zippé ce fichier-là et que j'ai uploadé dans mon blob storage Azure. Donc si j'y vais, voilà, il est dans ce container et vous voyez qu'il est zippé. Cependant, je peux toujours le requêter dans Hive, ce qui vous laisse imaginer certaines cas d'utilisation. Et on y retrouve finalement la liste de mes mots. Alors j'ai mis des mots en anglais, j'ai mis des mots en français, avec une polarité, à savoir un sentiment qui en résulte. Ensuite, j'ai créé une autre table qui s'appelle Time Zone pour avoir le country, parce que les utilisateurs renseignent une ville, ce qui va me permettre d'avoir une hiérarchie ville-country. Ensuite, là, je commence à analyser mes tweets. Donc, pour ce faire, je crée une table externe, encore une fois, mais elle, partitionnée par date. Si vous vous rappelez, mes données sont partitionnées par jour, ce qui va me permettre de les requêter journée par journée et de travailler sur une journée. Ensuite, je crée une vue, et là, je vais faire appel à des fonctions Hive natives comme GetJSON Object pour naviguer dans mon JSON, dans mon tweet, et finalement récupérer les informations pertinentes de ce tweet. Ensuite, je crée une nouvelle vue qui s'appelle TweetClean pour accrocher finalement le pays à ces différents tweets. Là, on va commencer l'analyse des sentiments. Donc, je crée une première vue TweetWord qui contient l'identifiant du tweet et un tableau du texte, parce que l'UDF Sentences va permettre de découper le texte du tweet en un tableau de plusieurs mots. Ensuite, TweetWord va exploser ce tableau, donc l'identifiant du tweet et ses différents mots sur plusieurs lignes. Le TweetWord Polarity va me raccrocher la polarité des différents mots, et en fait, j'en fais un average dans cette dernière vue pour avoir une approximation suivant la totalité des mots du texte du sentiment qu'il en résulte. Si on fait une vue, parce que ce sera plus simple de comprendre, voilà, au début, ma vue ressemble à celle d'en haut. Ensuite, je découpe cette vue en un tableau de mots. Ensuite, j'explose ces différents mots sur plusieurs lignes et ensuite, j'en fais un average. Ensuite, je crée une autre table qui s'appelle TweetWord qui va me permettre de raccrocher les... Ah, il faut savoir que j'affecte une tonalité à un mot sans tenir compte du contexte. Donc, j'aurai pas la capacité à analyser les figures rhétoriques comme le sarcasme ou l'ironie. Mais disons que j'aurai à peu près 80% de bonnes données justes. Ce qui permet aussi d'avoir un dictionnaire par métier. C'est un utilisateur peut avoir son dictionnaire parce que pour un métier, des mots sont plus positifs que pour un autre métier. Je ne sais pas si vous avez compris. Tweet Keyword va me permettre de raccrocher différents mots des utilisateurs renseignés à des tweets. Donc si ce mot est présent dans le texte du tweet, il sera répertorié. Là, je vais commencer mes external tables de output. Donc je crée une nouvelle taille table externe détail que je partitionne par date. Et que je stocke dans le container output data. Là, je vais créer deux tables de staging qui vont me permettre après d'alimenter mon data warehouse. Donc, dans cette première table, je vais créer en fonction du keyword un certain nombre de mots qui en résultent, qui sont présents à côté de ce keyword dans les différents tweets, et je vais compter leur fréquence. Ensuite, cette dernière table va me permettre d'alimenter mes dimensions et mes tables de fait. On aurait pu rajouter de l'intelligence à ces données, mais en fonction du temps, en créant des fonctions Java et les appeler dans Hive. Et maintenant, via Scoop, SQL Toadoop, je vais pouvoir envoyer ces données dans une base de données SQL Server. Donc vous voyez que j'ai fait appel au driver JDBC SQL Server et j'ai appelé la chaîne de connexion à ma base de données. Dans la table STG Word, je vais sauvegarder le container suivant. Et je fais la même chose pour la dernière table. Si on regarde ici, je me suis connecté à ma base de données qui est située dans ma VM. Et donc, je vais requêter pour le keyword que les utilisateurs ont souhaité analyser Xbox 360, les données au 31-12-2013. Quels sont les mots qui sont les plus occurrents dans les tweets ayant Xbox 360? Voilà, si on part sur l'architecture, qu'est-ce que nous avons fait ici? Nous avons créé le cluster HD Insight, stocké les données agrégées dans SQL Server et des données de détail qui sont issues de la première vue dans mon blob storage Azure. Maintenant, nous pouvons supprimer notre cluster HD Insight parce qu'on n'en a plus besoin. Passons à l'automatisation de ces... De ces traitements. Donc, dans un premier temps, via SSIS, qui est l'ETL de Microsoft, je vais faire appel à des requêtes, à des commandes PowerShell pour créer mon cluster, envoyer les requêtes et exécuter un certain nombre de traitements pour agréger mes données, leur donner de l'intelligence, etc. Ensuite, je crée un cube tabulaire avec PowerPivot et enfin un rapport PowerView. Il faut savoir que des tâches dans SSIS sont en cours de développement et ils seront disponibles sous CodePlex sous peu. Donc si je me connecte à ma VM SQL Server, ici je suis connecté. Voilà, donc mon package ressemble à un package tout simple. Donc je commence à loguer le début de mes traitements. Je fais un certain nombre de traitements d'HD Insight. j'alimente mon data warehouse et c'est fini. Si on fait un parallèle avec le premier schéma que je vous avais montré, c'est typiquement le point 3. Nous allons charger notre data warehouse à partir de output effectué dans HD Insight. Donc, qu'est-ce qu'il y a dans ce package? Parce qu'ici, je fais appel à un autre package qui est celui-ci. Qu'est-ce qu'il y a dans ce package? Ici, je vais chercher la dernière date de partition. Donc, si vous vous en souvenez, au début, lors de la création de mon cluster, j'ai spécifié l'enregistrement de métadonnées Hive dans une base SQL Server Azure. C'est ici que je vais en avoir besoin, parce qu'elle va me permettre de connaître la dernière date de ma dernière partition, plus 1. Donc, ensuite, je vais pouvoir modifier, via une tâche C#, ce fichier de script, qui est le même que je vous ai présenté tout à l'heure, et dans lequel on va modifier la date de partition, ce qui va me permettre de travailler la nouvelle partition renseignée. Tous les soirs, on va faire un job SQL, va exécuter ces différents traitements, et du coup, tous les jours, on rajoutera une partition. Donc, ensuite, j'upload mon fichier HQL, qui est le script, dans mon blob storage. Donc, si je regarde la requête, c'est celle-ci, c'est une commande PowerShell, et je upload tout simplement ma requête HiveQuery modifiée avec la nouvelle valeur dans mon container HiveQuery. Donc la voici. Ensuite, qu'est-ce que je vais faire? Je vais créer mon cluster HD Insight. Ensuite, je vais exécuter cette requête HQL présente dans mon blob storage avec la nouvelle date de partition. Et ensuite, j'ai effectué les deux requêtes scoop qu'on a pu voir tout à l'heure. Enfin, je délète mon cluster HD Insight et je peux toujours 4 minutes. Donc, je vais vous montrer directement. J'ai créé un cube tabulaire au-dessus de ces données. Ensuite, voilà les premiers rapports qu'on a pu faire aux utilisateurs. Donc ici, nous voyons... Nous sommes dans Excel 2013, nous avons corrélé les données de vente, alors bien entendu les données de vente sont truquées pour la démo, avec les nombres de tweets pour le jeu Black Ops 2. Donc il faut savoir qu'un de ces rapports a pu mettre en exergue le fait qu'en analysant deux semaines, à savoir une semaine à l'avance, une semaine après la sortie d'un jeu, on est à même de savoir combien de jeux on va vendre. Donc on peut prédire en fonction du nombre de buzz constatés, en analysant deux semaines, combien de jeux unitaires vont être vendus. On a fait cet exercice sur les différents réseaux sociaux, et je vais passer plutôt à l'analyse de sentiments, puisqu'aujourd'hui on a, comme vous avez pu le voir, rajouté de l'intelligence à ces données. Donc voilà un rapport qui met en exergue cela. Donc je peux analyser sur différents pays le nombre de tweets positifs, le nombre de tweets négatifs. Je peux aussi voir quels sont les mots, le nuage de mots qui tourne autour de ces différents mots-clés. Je peux aussi analyser et comparer les comptes vérifiés et les comptes non vérifiés. Donc on a pu voir aussi, on a pu mettre en exergue que suivant que les utilisateurs des comptes vérifiés, donc c'est les sociétés, tweetaient, ça avait un impact sur les autres comptes des utilisateurs non vérifiés. Pour ajouter de l'intelligence à ces données, on peut aussi... si vous en rappelez, on avait des données de détail. Donc je peux utiliser Power Query. Hop, si je me connecte, qui est l'ETL, hop, il ne veut pas. Je ferme celui-ci. Pour ajouter, finalement, j'ai été chercher ici dans Tweet Détail des données qui sont stockées dans mon blob storage Azure, alors que mon cluster est toujours éteint, ce qui me permet de faire un rapport comme celui-ci et d'analyser sur une journée, donc tous les jours, les utilisateurs ont un nouveau rapport comme celui-ci, avec là le détail des différents tweets. Donc par exemple, si j'analyse les tweets positifs en Grèce, nous voyons voilà, le détail des tweets avec la photo des utilisateurs.
Toujours dans Excel ?
Je suis toujours dans Excel et là dans PowerView. Désolé, je ne l'ai pas spécifié. Mais un nouvel outil est apparu, et qui s'appelle Q&A, et là on travaille dans Office 365. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai juste uploadé mon cube tabulaire dans Office 365, et via Power Q&A, je vais pouvoir tout simplement demander how many tweets compte, alors how many tweets
in English
compte, ou bien sûr how many tweets compte, alors for Call of Duty,
ils ont fait une
on December 31. Et donc, je vais avoir le nombre de tweets au 31 décembre sur Call of Duty. Je peux aussi, plutôt qu'avoir sur une journée, l'avoir by date. Et donc là, je vais plutôt avoir une courbe. Je peux l'analyser par sentiment. puisque nous avons rajouté les sentiments de ces différents tweets, et je peux l'avoir on country, ce qui va me permettre d'avoir une map. Et du coup, là, vous voyez qu'il n'y a aucune connaissance en informatique qui est nécessaire pour analyser et dire qu'aux United States, il y a eu un certain nombre de tweets positifs. Bon, ben, j'ai accéléré un peu sur la fin. J'ai fini. Je te laisse maintenant, François, la parole pour VTraffic.
Merci. Si tu peux mettre le slide.
Je te mets le slide.
Surtout celui où il y a mon logo, comme ça, tout le monde le voit.
Alors, normalement, c'est,
là, vous voyez bien mon logo, là, je crois. Bonjour, donc re-bonjour.
Je peux zoomer. Pardon.
Donc moi, je vais vous parler d'infotrafic. Ça, je pense que ça parle à tout le monde. Je représente donc la société VTraffic et on est présent sur tous ces petits des écrans, des tablettes, des téléphones. Même on est à l'intérieur des véhicules, directement intégré dans le véhicule ou sur du second monde, comme des terminaux, comme Garmin et autres. Voilà. On est la société Média Mobile, on a notre petit site là-haut. Et moi, je fais un métier passionnant parce que l'infotrafic, on est heureux. Plus il y a de bouchons et plus nous, on est contents. Donc voilà. On est un métier qui parle à tout le monde et on peut même dire un service public quasiment, même si on est privé. On est une filiale du groupe TDF. Il y en a qui connaissent déjà VTraffic dans la salle, à part la petite plénière d'hier où merci Benjamin. Ah, il y en a quand même, hein. Ah, on n'est pas inconnus, hein. Bon, merci, ça fait plaisir. Donc, comment on arrive à faire ce travail-là, s'il te plaît, si tu peux aller sur le slide d'après. Comment on arrive à vous fournir de l'infotrafic, c'est-à-dire des événements bouchons, accidents, sur votre parcours, sur votre trajet, de manière publique ou même privée. On fait tout ce qui est décrit ici. On va chercher des sources, donc on va à la pêche avec notre petit panier, on va chercher plus de 100 sources différentes, des publics, des privés, des... Alors, ça veut dire qu'on achète les publics, les gratuites, et même les FCD. Alors, on va revenir, on va zoomer sur les FCD un petit peu plus après. On va chercher toutes ces sources-là et on les met dans la grosse boîte orange qui est là. Alors, grosse boîte orange, en fait, c'est des bases de données structurées et non structurées. En gros, il y a des experts qui savent maîtriser ça. Et ensuite, on prend cette grosse boîte orange-là, on la secoue, c'est comme un gros shaker, en fait, et on obtient, en filtrant, il y a des experts chez nous qui filtrent, qui priorisent, qui formatent, qui analysent les données, et après, on les rediffuse sous tous ces canaux-là, qui sont là, à droite, distribution. Donc, on rediffuse en mode broadcast, c'est-à-dire sur les ondes, alors soit un RDS-TMC, c'est la radio analogique, classique, dans vos voitures. Maintenant, on s'est mis à la numérique, radio numérique, DAB. On diffuse aussi sur les mobiles, ça termine sur les téléphones en 3G, GPRS, et aussi sur les sites web. Voilà, donc notre cœur de métier, il est là, il est au milieu. C'est récupérer, formater, analyser. Alors, on va zoomer un petit peu sur le FCD, parce que c'est là où on a besoin d'HD Insight. Alors là, super démo, hein, on a travaillé des jours et des jours pour vous faire un super slide avec une petite anime. L'FCD, ça veut dire quoi ? Floating Data. En gros, c'est expliqué là. Quand on a besoin d'infos sur un axe qui n'est pas fourni par un capteur statique, c'est-à-dire des ondes. En fait, il y a des capteurs dans les routes, et puis ça passe par ondes électromagnétiques, donc dès qu'il y a voiture qui passe, on a les infos. Mais ça, c'est les capteurs statiques. Et il y a des infos qu'on obtient aussi et qu'on fabrique. Donc je vous ai dit qu'on fabriquait de l'information trafic. Là, on n'en avait pas par les sources traditionnelles. C'est pour ça qu'on est les plus forts. On est premium, on est les meilleurs. Et donc, on arrive à obtenir les infos, par exemple, en se fournissant avec des partenaires. On travaille avec des partenaires comme des flottes de taxi. Je pense que tu as déjà expliqué ça, Benjamin, à la plénière. Donc, on récupère les positions GPS. Et après, ces positions GPS, on en déduit des infos. Voilà, merci. Et on les collecte et on en déduit des axes. Et c'est de là, après, où on peut dessiner des couleurs rouge, orange. Si tu peux aller sur la slide suivante, s'il te plaît. On obtient une super démo comme ça. C'est beau, non ? On a travaillé dessus, hein. Alors, qu'est-ce que c'est ça ? C'est des vraies données, c'est une vraie ville, c'est Toulouse, ça, je ne sais pas si ça se voit bien sur le slide, et c'est des vraies heures, une vraie date. Donc, à gauche, on a les capteurs statiques, les sources traditionnelles, on voit qu'il y a des petits coins en gris, hein, qui ne sont pas renseignés. À droite, c'est ce qu'on obtient de nos capteurs traditionnels, plutôt FCD, véhicule traceur, on appelle ça, hein, donc FCD, Floating Car Data, ou véhicule traceur, c'est mieux en français, on a aussi du gris. Mais en gros, on fusionne les deux, et on arrive à couvrir les zones grises, grâce à la fusion des capteurs statiques plus des véhicules traceurs. Donc, en gros, on est plus fort que la concurrence parce qu'on va couvrir des zones qui ne sont pas couvertes par les autres. Je ne sais pas si maintenant vous avez compris, si vous avez envie que je vous repasse l'anime parce que c'était trop beau et qu'on a beaucoup travaillé dessus. Mais je veux bien. Voilà, c'est beau hein, quand même. Non ? Bon, on les a endormis, je crois, avec le début. Hein. Ok, on passe à la suite. Alors, pourquoi nous, on a besoin d'HD Insight ? Alors, parce qu'on a besoin d'Hadoop. Et sur HD Insight, c'est du Hadoop à la demande. Et comment on fait ça ? Alors, avant, comment on faisait avant ? Avant, on se servait beaucoup de SQL Server, de Procstock avec des fonctions spatiales. Mais vous imaginez bien que le flot de données, on prenait du temps à le faire, énormément de temps. Alors qu'avec Hadoop, on a gagné un peu de temps de traitement, même si c'est faisable en SQL Server. Mais avant, en fait, ce qui se passe, c'est que mon chef, il a besoin de rapports sur ces données-là pour aller chercher, aller à la pêche aux nouveaux fournisseurs, aux nouvelles flottes de taxis, aux nouvelles flottes de livreurs ou quoi que ce soit. Et il a besoin de savoir quelles sont les zones les plus couvertes pour aller chercher, donc analyser ces données-là de partenaires FCD et de savoir quelles zones sont couvertes et on va privilégier ceux qui couvrent des zones qui ne sont pas couvertes par ceux qu'on a déjà.
Donc tu compresses le temps en faisant tourner sur plusieurs serveurs au lieu d'un seul comme...
Exactement. Alors avant, avec la méthode SQL, ça prenait des jours. Donc je disais à mon chef, quand il veut son rapport, tu me préviens une semaine à l'avance, histoire qu'on ait le temps de le faire. Et donc il nous demandait ce rapport-là, alors que je lui ai dit, ben, je lui ai vendu ça, maintenant tu peux aller prendre un café, tu reviens, voire deux cafés, tu reviens, tu l'as ton rapport. Donc il a un petit peu plus de souplesse. Et comment on fait ça ? Ben, en fait, on prend chacune des positions, donc les longitudes, latitudes, de chacune des voitures qu'on reçoit. Donc il y a des fournisseurs qui nous envoient des tonnes et des tonnes de données. Le volume, c'est environ pour un seul fournisseur, on en a plusieurs, presque 4 millions de véhicules qui nous envoient 77 millions de positions pour 30 jours. Donc ils nous envoient jour par jour. On va le voir, on va vous le montrer. Donc ça, c'est ça qu'il faut traiter, le volume à traiter. Et qu'est-ce qu'on fait pour chacune des positions ? On va les localiser dans une des 36 000 villes de France. Au cas où vous ne saviez pas, il y a 36 000 cantons en France. Donc on prend chacune des positions et on regarde dans quelle position, dans quelle ville elle est, et on fait plus un. Donc, comment on le fait dans HD Insight ? On a un job, alors on utilise Hive, comme ça on met les données dans des tables externes Hive, donc il y a le load de ces données dans des tables externes Hive. Ensuite, on a un traitement qui est lancé par Hive, mais qui est en Python. Et ce Python, qu'est-ce qu'il fait ? Point une polygone. Dans quel point se trouve, dans quelle ville se trouve ma position ? Et après, on fait un gros group by, et après, de là, on en déduit, je vais vous montrer après ce que ça donne, mais c'est vraiment HD Insight pour quoi faire ? Bah, c'est vraiment un outil d'aide à la décision pour nous. Quel fournisseur on va prendre ? Est-ce que celui-là, il nous a envoyé beaucoup de données ? Est-ce que celui-là, il a failli sur cette zone ? Enfin, c'est vraiment un outil d'aide à la décision. Donc là, je vais te laisser la main à Sébastien pour qu'il vous montre exactement comment ça se traduit techniquement. Excuse-moi, je t'ai mangé un peu de temps. Vas-y, il faut speeder un peu.
Alors, dans le système de stockage Azure, on voit ici un mois de données d'un de nos fournisseurs. Donc on a 30 fichiers et je vais vous montrer un de ces 30 fichiers, voilà, qui est constitué de cette manière. Donc on a l'identifiant du véhicule, sa longitude, sa latitude. Donc pour traiter ces données, on va exécuter un script PowerShell, donc que je vous montre tout de suite, qui permet d'une part donc de créer le cluster HD Insight, d'exécuter un job Hive et de supprimer le cluster. C'est ce qui est bien dans Azure, c'est qu'on peut supprimer le cluster. Donc cette partie, cette région-là, nous permet de créer. Donc comme vous voyez là, en fait, on crée un cluster de 3 data nodes. Donc au final, on va avoir 4 machines, 4 VM. C'est juste cette ligne-là pour supprimer donc le cluster.
Ça, c'est du PowerShell, hein. C'est facile, c'est rapide, ça marche bien.
Et c'est voilà. Et donc ici, on a le job Hive qui va nous permettre d'exécuter en fait des requêtes Hive qui vont se trouver dans le fichier SQL. Donc je vais vous montrer aussi le fichier SQL. Voilà. Donc dans ce fichier, dans un premier temps, donc on indique la configuration. Donc là, ce qui est très important, ça va être le nombre de maps. Donc en l'occurrence 3. Je vous expliquerai après pourquoi c'est 10 et pas 30. On crée les tables, on partitionne ces tables, donc comme vous pouvez
le
voir là.
Une table par jour, une table par jour.
Absolument. Donc on partitionne les tables puisqu'il y a trop de fichiers. Et donc on a nos deux requêtes, donc une qui est en fait un mapper customisé qui va nous permettre d'exécuter donc un script Python et l'autre qui va nous permettre de faire un count sur le nombre de positions par ville. Donc, je vais vous montrer maintenant le code Python. Donc, dans le code Python, on a utilisé notamment trois librairies qui sont Shapefile, Shapely et Airtree. Alors, Shapefile, ça va nous permettre de charger un fichier Shape qui va contenir plus de 36 000 polygones qui correspondent au nombre de villes en France. On a Shapely qui va nous permettre de savoir si le point est contenu dans un des polygones. Et Airtree qui va nous permettre d'indexer un arbre de recherche et de travailler sur des rectangles et non pas des polygones. Donc, pour ça, d'ailleurs, il y a une page Wikipédia qui explique bien la notion de Airtree, donc d'arbre de recherche indexé.
Ça fait beau, hein, ça fait intelligent. Hein.
Voilà.
On croirait qu'on est intelligent quand on voit ça.
Exactement, c'est pour faire genre. Et donc, je vais vous montrer aussi donc, les trois lignes de code qui sont peut-être intéressantes. Donc ici, en fait, ça nous permet de savoir si donc, dans un ou des rectangles, le point est contenu le point. Ensuite, on teste si vraiment ce point est dans le polygone ou pas, et on renvoie donc si c'est le cas ou si ça ne l'est pas. Alors après, ce qui est intéressant aussi, c'est que lorsqu'on lance le job, on peut faire du remoting.
Merci. Connecté en terminal
remote desktop.
Voilà. En donc en fait, donc comme je vous ai dit tout à l'heure, on a trois data nodes, et là on se connecte au nœud principal qui va être le contrôleur. Et on peut voir que donc pour voilà les trois data nodes, on peut voir que la taille totale de map possible c'est 12, parce que chaque data node peut avoir au maximum 4 maps, donc 3 fois 4, 12. Donc après si Benjamin tu peux revenir juste en excuse-moi.
Ouais.
Ah bon. Donc ce portail va nous permettre donc d'avoir d'une part des informations sympathiques pour voir la distribution.
Pour monitorer, oui.
Pour monitorer, et puis vous pouvez suivre en fait les jobs donc
si en temps réel.
En temps réel, exactement. Une fois que le job se termine, donc vous
ça
allez.
Ça fait avoir un groupe by, donc ça a rassemblé les données.
Exactement. Vous allez obtenir donc une table Hive avec le résultat qui peut être visualisé sous forme de fichier, donc comme celui-ci, où vous avez donc l'identifiant de la ville, le nom de la ville et le nombre de positions qui est associé à cette ville.
Par là. Ouais.
Maintenant, je vais passer le fichier à François.
Alors, qu'est-ce qu'on fait avec ce gros fichier-là ? Si tu peux remettre l'affichage sur Romain, s'il te plaît.
Ça arrive.
Ouais. Ok. Comme ça, je vais pouvoir appuyer. Ben, j'ai repris sur ce slide-là, je ne me suis pas trop fatigué, j'ai copié mon copain Romain, là, et j'ai repris son architecture, j'ai trouvé sympa. Et en fait, le fichier, on voit dans un output, qu'est-ce qu'on fait ? Ben, on utilise SSIS pour le mettre dans une base donnée, une ou plusieurs bases données. De cette base donnée-là, il y a déjà la deuxième flèche rouge, on va en faire tourner un cube dessus, un cube OLAP, donc je vais très vite, hein, je ne détaille pas trop parce que je n'ai pas beaucoup de temps. Et après, une fois qu'on a fait tourner un cube OLAP, ben, on fait tourner un report serveur dessus. Qu'est-ce que va faire ce report serveur-là, sur ces données-là ? Il va donner un super report pour mon chef. Parce que mine de rien, on bosse pour notre chef. Hein. Et donc mon chef, il voit ça, il est content, parce que pour ce fournisseur-là, il voit les zones colorées, les plus actives, les plus passagères, on va dire. Et donc même mon chef, quand il veut, il appuie, il clique, il peut zoomer sur une ville. Voilà. Et il sait qu'à Nîmes, il y a eu 4814 passages de ce fournisseur-là dans Nîmes. Et donc, ce qui est intéressant là-dessus, c'est que c'est sur du report serveur qu'on intègre dans un SharePoint, et il peut même partir voir le fournisseur et lui montrer ça, pour dire ce mois-ci, vous n'avez pas bien fait, c'était pas terrible, vous avez que coloré cette ville-là et tout ça. Voilà, voilà, en gros, nous, notre chef, il est content parce que maintenant on fait ça, c'est rapide, et ben, nous, on a rempli notre contrat. Mais après, là-dessus, on a fait un peu les curieux, on a voulu jouer un peu avec, on a voulu voir ce que ça donne un petit peu en termes de performance HD Insight. Je ne sais pas si on a le temps et si ça vous intéresse de voir ce que ça donne sur les perfs. Ça vous intéresse ? Ah, il y a du gros oui là, il ne dorme pas, c'est cool. Alors, je vais vous montrer. Alors, ce qu'on s'est fait, c'est qu'on a une petite courbe comme ça et on s'est dit, qu'est-ce qui se passe si on monte un cluster ? Alors, on a commencé sur un cluster 3 nœuds et on voit que ça dure 29 minutes. Ça, c'est assez simple à comprendre. Après, on a dit, on va essayer 6 nodes. On est descendu à 19 minutes. Puis on s'est dit, plus on va mettre de nœuds de calcul, et plus ça va descendre les temps de traitement. On s'est dit, ça va être linéaire. Et qu'est-ce qu'on voit ici ? On a 9 nodes. À 9 nodes, on est à 16 minutes. Alors déjà, 16 minutes, c'est pas mal, mais que ça stagne à 16 minutes, même si on prend le cluster max. Alors, cluster max, c'est 30, 35, je ne sais plus. Voilà, et on s'est dit, 16 minutes, ben, ça fait quand même 77 millions de points en 16 minutes, ça fait quand même 80 208 points par seconde. 80 208 points. Bravo, non ? C'est pas beau ? Ça torpille pas, ça, quand même ? Donc, on s'est dit, sur un cluster 9 nœuds, 80 000 points. Alors après, on a creusé encore un petit peu, et on s'est dit, mais pourquoi ça stagne à 16 minutes ? Et donc, ça donne le petit dernier graphe qui est là. Alors, c'est le dernier, hein, je vous jure. Et en fait, je vais essayer d'expliquer rapidement ce que c'est. On a les clusters qui sont refaits ici, et on s'est dit, alors bien sûr, les mappers, c'est le nombre de tâches qu'ils lancent, on l'a expliqué au départ. Le nombre de maps réelles, c'est le nombre rouge. Donc, c'est-à-dire, sur un cluster de 3 nœuds, il ne peut pas lancer plus de 12 maps max, chiffre vert, et il en lance 10 en temps réel, en permanence. Sur un cluster de 6, et là, il a 29 minutes. Sur un cluster de 6 nœuds, il en lance 22 en temps réel. Donc, il tombe à 19 minutes. Sur un cluster 9 nœuds, il tombe à 30 maps. Et sur 30 maps, on est à 16 minutes. Même s'il peut en avoir 36. Et après, on continue comme ça, il tombe toujours sur 30 maps. Il ne va pas plus loin. Alors, il faut savoir que c'est Hive qui contrôle le nombre de process Python qu'il lance, le nombre de mappers. On est d'accord ? Et donc, on s'est dit, pourquoi 30 maps ? Pourquoi il stagne à 30 maps ? À votre avis, vous avez une idée ? Pourquoi 30 maps ? Il y en a qui suivent dans la salle ? 30 jours, exactement, la partition. Ah, il y en a qui suivent dans la salle. Donc, en fait, on s'est dit, si on avait plus de jours, ça torpillerait plus. En fait, plus on a de data, et proportionnellement, plus ça va vite. Mais après, on s'est dit, bon, 9 nodes. En plus, si on compare ça au prix, 9 nodes, ça me coûte 2,622 € de l'heure. Donc, c'est facturé à l'heure. Donc, en fait, pour 16 minutes, ça me coûte 2,622 €. Et pour 29 minutes, ça me coûte 192 €. 1,192 €, pardon. Bref, à quoi ça sert de mettre plus de nodes ? Ça ne sert pas à grand-chose puisque c'est facturé à l'heure. De toute façon, je vais le facturer. Donc maintenant, on fait tourner ça sur un cluster 3 nœuds, mais 29 minutes. Donc moi, j'avais dit à mon chef, vous vous rappelez, je lui avais dit, c'est bon, je lui ai vendu le truc HD Inside en lui disant, va prendre ton café, t'es tranquille. Tu reviens avec deux cafés, c'est bon, c'est pondu. Mais si je pars sur des 29 minutes, là, 29 minutes pour boire deux cafés, ça va être un peu short quand même. Donc en fait, je lui dis, va manger. Va manger. Et quand tu reviens à midi, début d'après-midi, ton traitement il sera fait pour 1,192 €. Mais 29 minutes pour manger, va falloir qu'ils choisissent entre fromage et dessert, hein, parce que là, c'est quand même 29 minutes pour manger, c'est pas beaucoup. Mais voilà, donc mon chef, il est content pour 1,192 €, et en plus, il part de déjeuner, il revient, il a son rapport, il est en clientèle, voilà. Donc c'était un exemple concret de ce qu'on utilise réellement chez VTraffic, et ça nous ouvre plein d'opportunités encore, vous imaginez, pour les statistiques et autres. Voilà. Je te rends la main, Benjamin, désolé.
Non, c'est très bien. J'ai juste deux slides de pub pour si vous ne savez pas quoi faire le 29 mars, allez découvrir Azure. Et si vous voulez le tester, vous pouvez tester plein de clusters HD Insight pour 150 € pendant un mois. Donc vous avez une offre d'essai qui est ici.